Je crois que le premier de ses espoirs, ou la première de ses espérances, c'est de vivre la foi chrétienne assez décomplexée, sans difficulté par rapport au monde où nous habitons. Parce que je crois que dans la génération qui vient de se passer, probablement ça a été un effet d'une centaine d'années de laïcité vécue dans notre pays, il y a eu une espèce d'intériorisation de la loi de laïcité, qui faisait qu'on se disait « Non, il ne faut pas prendre la parole chrétiennement dans la société est laïque, il ne faut pas faire montre de notre foi dans tout cela, c'est une affaire personnelle. » Et on avait comme intériorisé la loi de la laïcité, c'est-à-dire on s'est un peu interdit de parler. Bon. Aujourd'hui, ce régime-là finit par peser sur les chrétiens eux-mêmes et ils se disent « Mais enfin, c'est vrai, nous avons quand même un trésor formidable qui est la découverte du Christ toujours présent. » Ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes, ça n'est pas un trésor si nous le gardons. Il s'agit simplement d'être des chrétiens qui sont prêts à rendre compte de l'espérance qui est en eux et à rendre compte du fait que cette espérance, elle est enracinée dans le Christ. Voilà. Ça, c'est un premier défi pour aujourd'hui, une première espérance. Je crois qu'il y en a une autre, c'est de continuer à marcher dans la voie de l'engagement au service des frères. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens. Je le sens ici, dans ce pays du nord de la France, il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui sont au service de la société, au service de leurs frères, au service des associations, dans des conseils municipaux, dans des réalités de la vie publique, de la vie politique, voilà. Et je crois que ça, c'est aussi une deuxième source d'espérance, c'est que les chrétiens ne désertent pas du tout le champ de la vie sociale et le fassent. Alors ça, je dirais, c'est une troisième espérance que j'ai assez forte, c'est que nous avons une richesse dans le christianisme avec la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement de l'Église sur les questions sociales. C'est une très grande richesse que nous pouvons redévelopper, c'est-à-dire nous redire la terre est à tous, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la justice. Voilà. Jean-Paul II et Benoît XVI ont été très insistants et très prémonitoires en disant la doctrine sociale, l'enseignement social de l'Église a un avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens sont prêts à trouver dans notre enseignement social des richesses assez importantes.
Vous avez parlé de ces joies, de ces espoirs. Il y a également des craintes et des souffrances. Quelles sont-elles aujourd'hui pour cette Église de France ?
Bien sûr qu'on peut craindre un amenuisement des forces. Cela est vrai. Je veux dire, on ne peut pas regarder le monde comme ça en se disant que tout va très bien pour notre Église. Pour l'instant, on a un effort formidable à faire pour réacclimater la catéchèse dans les familles, dans la société tout entière, auprès des enfants. Comment va-t-on pouvoir redistribuer la richesse de la découverte du Christ dans une vie ? Il est vrai que nous faisons des efforts sur ce sujet, que nous avons redéployé notre perception de la catéchèse en se disant qu'elle n'était plus seulement la catéchèse des enfants de 8 à 12 ans, mais que nous avions à faire l'effort aussi avec les familles, etc., à toutes les occasions de la vie. Donc il y a une inquiétude numérique qui est réelle. Je crois qu'il y a aussi une inquiétude qui est corrélative à cela, de ne pas se faire entendre suffisamment dans la multiplicité des propositions que notre société offre. La nôtre peut paraître parfois petite. Bon, on a, d'une certaine façon, peu de force à mettre à disposition. À côté des efforts que nous voudrions faire pour être en relation avec tout le monde, nous nous sentons bien démunis. Nous voyons bien que le ministère, la vocation des prêtres, c'est quelque chose qui a du mal à être perçu dans sa vérité, dans sa profondeur, dans sa capacité à combler une vie. Et on a du mal à faire percevoir ça. Je crois que là-devant, on est dans des réelles inquiétudes, c'est vrai.
Comment est-ce que l'Église aujourd'hui affirme la théologie du corps, ce lien à l'incarnation et au monde, outre la doctrine sociale dont on a déjà parlé ?
Je crois qu'il y a un lieu très fort où cela se vit, c'est la présentation que nous faisons, ce que nous vivons, du mariage. Il y a aujourd'hui, dans notre doctrine chrétienne, et depuis toujours, une place très forte réservée au corps dans la vie conjugale. Le pape Jean-Paul II l'a illustré par des catéchèses magnifiques au début de son pontificat sur l'amour humain, sur la personne humaine, sur le corps. Et je crois qu'il y a peut-être un effet heureux qui est en train de se sentir, et des chrétiens se disent quelque chose que l'on croyait peut-être réservé à des spiritualités orientales. Nous sommes capables, dans notre tradition chrétienne, de l'assumer et de le percevoir comme quelque chose d'important.
Le Concile Vatican II, dans le document Gaudium et Spes, parle aussi de la doctrine sociale et notamment de l'engagement des chrétiens dans tout ce qui est le monde du travail, la société actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui le christianisme est présent dans cette société et de quelle manière plus particulière ?
Là, ça fait partie, j'allais dire, des déficits d'image dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire, même des chrétiens se disent « nous ne sommes plus présents dans toutes ces réalités ». Or, il me semble qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont parfaitement engagés. J'en rencontre très régulièrement dans mes visites pastorales des gens qui travaillent dans des entreprises, etc. Et ils ne font pas deux parts de leur vie. C'est-à-dire qu'ils sentent bien que leur engagement professionnel ne peut pas être séparé de la foi qu'ils vivent par ailleurs. Mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de gens qui désirent exercer leurs responsabilités sociales et professionnelles avec au cœur l'engagement de leur foi.
On va fêter cette année les 45 ans de la constitution Gaudium et Spes. Qu'est-ce que ça vous inspire cet anniversaire ? Est-ce que vous pensez que c'était un moment fort de la vie de l'Église, que ça a encore un sens fort aujourd'hui ?
Il est clair que le texte Gaudium et Spes, enfin, ça lui a été reproché d'être marqué par l'optimisme des années des Trente Glorieuses. Voilà. Et donc on a parfois le sentiment que cet optimisme a peut-être empêché de voir que le monde s'enfonçait aussi dans un certain nombre de difficultés. Mais quand même, redire aujourd'hui de façon claire que l'Église s'engage au milieu d'un monde qui n'est plus le même qu'il y a 45 ans, mais qui est un monde marqué dans une époque. Enfin, dire qu'il y a toujours les joies et les espoirs, mais aussi les inquiétudes et les angoisses des hommes auxquels l'Église a vraiment le désir de participer, parce qu'elle est incarnée et insérée dans ce monde. Je trouve que ça reste une très très grande richesse et qu'on a vraiment besoin de pousser les chrétiens et l'Église à être tout simplement au milieu de ce monde, avec ce mélange de joie, d'espoir, de peine et d'angoisse qui marque la vie des hommes.